On est dans un dôme géodésique. Avant, c'était une yourte, là où j'habite. Et puis, petit à petit, ça s'est transformé en dôme. Et donc, c'est un habitat qui est assez, c'est assez facile à construire. C'est pas très onéreux. Et puis, ça demande très peu de matériaux. Et donc, ça, c'est ça qui m'a séduit. Parce qu'avec très peu de bois et très peu de tissu, on arrive à avoir quelque chose de plutôt confortable, avec vraiment cette sensation d'être connecté directement avec l'extérieur. J'avais vraiment un grand besoin de sauvage, et puis la proximité avec la forêt. J'entends tout, j'entends les chevreuils, j'entends les renards, j'entends le vent dans les arbres. Voilà, j'aime bien être en contact direct avec les éléments, quoi, avec les éléments et puis tous vivants. J'ai toujours été plus ou moins nomade sédentaire. Ça veut dire que je ne supportais pas habiter dans des appartements. Les murs, ça ne me va pas non plus. J'ai toujours eu besoin, et je ne sais pas pourquoi, de quelque chose de fluide, léger et mouvant. Et donc, je crois que le bateau répondait bien à cette attente-là, enfin ce besoin même, hein. J'avais un besoin fort. Alors pendant longtemps, j'ai vécu avec des bidons. En fait, se vivre avec des bidons, on économise obligatoirement l'eau. Et donc déjà en bateau, quand on voyage, le voyage que j'ai fait le plus long, ça a été 50 jours tout seul en pleine mer, en traversant l'océan Indien. Et donc là, on a 200 litres pour 50 jours. Alors on a toute l'eau de mer autour, mais qu'on ne peut pas boire comme ça, on peut cuisiner avec. On s'en sert pour se laver, on se sert aussi de l'eau de pluie qu'on peut récupérer. Mais on est quand même obligé d'économiser cette eau douce parce qu'elle est vitale. Et ensuite, en habitant en caravane, en camion, c'est pareil, on réduit ses besoins parce qu'il y a le côté pratique en fait, de la chose, où on n'a pas vraiment d'espace pour collecter et stocker l'eau. Et puis ensuite, plus on va la dépenser, plus il va y avoir de besoin d'aller en chercher. Donc c'est un peu le côté fainéant. C'est-à-dire que, mais c'est le bon côté en fait de la fainéantise, c'est-à-dire comment on économise et on limite les pertes d'énergie en fait. C'est vraiment cette démarche qu'on retrouve énormément dans les principes de la permaculture. Du coup, de cette expérience de plusieurs années au bidon, j'ai l'eau courante, mais j'économise énormément d'eau et je recycle toute mon eau aussi. Ce qui fait que ici, mon jardin, il est irrigué par l'eau de pluie. J'ai des petits systèmes qui permettent de retenir l'eau dans les pentes, parce que tout est un peu en pente. Après, sur le lieu, on a une grande piscine qui récupère l'eau des toitures d'autres maisons. Donc, on a 100, 110 mètres cubes, si je dis pas de bêtises. Donc, on a une grosse réserve aussi, une grosse capacité. Cette piscine, elle sert à rien d'autre que ça. Et puis, voilà, moi, je recycle toute mon eau et donc j'ai fait un calcul assez rapide, tout compris. Hors jardin, parce que des fois ça m'arrive d'arroser un peu mes semis, mes plantes avec l'eau du réseau. Mais hors jardin, juste pour ma vie à moi, je suis environ à 7 litres d'eau par jour. Donc, ce qui est très peu. C'est un calcul qui est lissé sur l'année, on va dire. Donc il y a des jours où je vais dépenser plus d'eau, peut-être 30 litres, parce que je vais faire une lessive, ou même plus parfois. Mais lissé sur l'année, j'en suis à peu près à ça. En permaculture, alors on dit aussi, voilà, il faut, et les anciens le disaient aussi, hein, quand je rencontre des anciens et qui nous parlent de leur système, c'est comment l'eau, dans son parcours, il faut qu'elle serve au moins 3 fois. On s'en sert par exemple pour faire cuire nos légumes, admettons. Après, de cette eau-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je refais du bouillon, je m'en resserre pour refaire cuire des légumes derrière? Ou alors, est-ce que je m'en sers pour, si j'ai des toilettes à eau, pour la chasse d'eau ou pour arroser mon jardin? Voilà, elle doit avoir plusieurs fonctions. On parle de flux en permaculture, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui traverse un écosystème. Par exemple, le vent qui va traverser ma propriété, un cours d'eau qui va la traverser aussi, ou de la pluie qui tombe, ou le soleil aussi, la chaleur, tout ça c'est des flux. Et donc l'eau c'est un flux, et par rapport à ce flux, comment on va faire en sorte d'optimiser le lieu pour que ce flux, en fait, il puisse avoir le plus d'impact sur le lieu. Et ensuite, quand il ressort du lieu, on dit en permaculture qu'il doit être en meilleur état. Il doit être, on parle du mot aggradé, donc amélioré. Ça vient de l'anglais upgrade. Et comment on améliore en fait la qualité de cette eau, par exemple, pour la redistribuer à l'écosystème. C'est un peu comme si notre lieu était comme un filtre et où on améliore les choses et ça ressort meilleur pour les êtres vivants qui sont autour. Ça peut être les voisins, ça peut être n'importe qui. Et donc, effectivement, l'hydrologie régénérative, elle est un peu tirée du domaine de la permaculture. Enfin, c'est comme ça que moi, je le perçois. Et donc, elle permet de reconsidérer l'eau. Et l'idée générale de l'hydrologie régénérative, c'est comment on va ralentir l'eau pour recréer le lien avec les cycles de l'eau. Aujourd'hui, on sait que les cycles de l'eau, ils sont accélérés par plein de problématiques qui sont notamment humaines, c'est-à-dire la destruction des sols, le tout tuyau, c'est-à-dire qu'on a, depuis bien plus de 30 ans, on a tout mis dans des tuyaux. Et finalement, donc, l'eau, elle arrive chez nous par un tuyau, elle repart dans des tuyaux, elle retourne à la mer, un peu filtrée. Et donc, tout ce cycle-là est beaucoup trop rapide. Il y a une grosse partie de l'eau qui ne repasse plus par le sol et qui ne redescend plus dans les nappes. Et ça va trop vite de la mer à la mer, en fait. Et donc, l'hydrologie régénérative, l'objectif, un des objectifs, c'est de renouer avec les cycles d'eau en ralentissant justement l'eau et en la réinfiltrant davantage dans les sols. Quand on essaie de ralentir l'eau en fait et de la réinfiltrer dans le sol, on essaie de commencer toujours par en haut. Et l'idée, c'est de mettre en place plein de petits systèmes qui vont être connectés entre eux. Pour garder l'eau dans le sol, il faut aussi travailler sur le sol, c'est-à-dire la structure du sol, toute la vie qui va être apportée dans le sol. Et cette vie-là qui va faire plein de petites galeries, donc les vers de terre, et qui va créer ce qu'on appelle la porosité. Donc les micro-galeries qui vont permettre à l'eau de descendre et de s'infiltrer, de pénétrer. Et toute la matière organique aussi qui va enrichir le sol et qui va permettre de garder le sol. Et aussi, on parle souvent de champignons, le réseau en fait des filaments de champignons dans le sol qui vont garder, permettre de conserver encore de l'eau. Donc c'est plein de stratégies qui se superposent les unes les autres que moi je mets en place ici. Et des stratégies qui sont simples, puisque en fait simplement par rapport à la pente, en perpendiculaire à la pente, je pose en fait des végétaux bruts. C'est souvent des arbres, je fais de la taille de vergers, et je fais des espèces de lignes perpendiculaires à la pente qui sont sur courbe de niveau. Et ça, donc je l'ai constitué, j'ai pris le temps entre le moment où j'ai coupé et taillé les arbres, mis les déchets. Donc il fallait pas mal de matériaux, donc ça m'a pris plusieurs mois pour collecter tout ça. Et puis une fois que c'était bien décomposé, au moins une année, j'ai tiré un peu les déchets, c'est des branches d'arbres. Et puis après j'ai travaillé un tout petit peu mon sol, donc je l'ai un peu ouvert avec une grelinette. Et puis par-dessus j'ai fait mes premières cultures. Et du coup, avec très peu d'énergie, ça a pris du temps, mais très peu d'énergie, j'ai fait une zone de culture dans laquelle je commence à planter quelques arbres, je mets de mes composts, etc. Et donc ça permet de garder un peu plus d'eau. Et cette eau va s'infiltrer, et puis elle va rayonner un peu autour de cette ligne-là. Voilà, j'ai refait d'autres systèmes un peu plus petits, sur le même principe, mais dans lequel j'ai inséré des arbres. Les arbres, ils me permettent d'ancrer un peu ça, ils vont chercher l'eau en profondeur aussi grâce à leurs racines, ils vont faire de l'ombre, quand ils perdent leurs feuilles et leurs fleurs, ils vont ramener un peu tout ça au sol, donc encore de la nourriture de sol, et puis ils amènent avec eux tout leur cortège d'insectes, chaque arbre a son cortège spécifique, donc on enrichit en haut et en bas, en sous-sol, et puis... Donc j'ai fait une rigole et dans laquelle en fait je récupère l'eau du chemin parce que les chemins ils drainent énormément d'eau en ruisselant. Ça contourne un petit peu ce bosquet là de ronces, ça passe devant les topinambours et ensuite ça redescend. Et il y a plusieurs ralentisseurs on va dire d'eau. Donc un premier où on a carrément une belle rigole et ça se remplit bien. Et donc ça va irriguer tout ce petit espace ou ce petit bosquet en dessous où on a un buis, on a un noisetier à feuilles rouges, on a un églantier, on a encore un pêcher, du sureau. Voilà, on a tout un ensemble qui constitue entre autres la haie par rapport au chemin, coupe-vent, et en même temps des abris pour les insectes. Et donc un premier stop avec cette rigole qu'on pourrait dire, qu'on pourrait appeler micro-baissière. Et ensuite, quand l'eau elle déborde, elle repart sur le chemin, elle descend. Et tu vois, on a encore une rigole. Et c'est encore de l'eau qui va venir se stocker là pour, on va dire, irriguer passivement un peu tout cet espace où on a encore deux grands tilleuls, enfin deux tilleuls qui ont quelques années, 3-4 ans, qui sont en train de prendre de la place. On a un noyer, on a un poirier ici, dans encore cette forêt de pruniers qui me sert de matière, on va dire, de support premier. Et je vais chercher à diversifier en fait cette forêt de pruniers petit à petit. On passe au dôme. Ici, ben, on voit l'arrivée du tuyau d'évacuation d'eau. Et donc c'est dans une tranchée que j'ai faite qui va alimenter une petite planche juste en dessous là où là ben, j'ai mis un peu des patates, un peu des tomates cet été et j'ai mis pas mal de framboises parce que ça aime bien l'eau et le soleil et donc en fait l'eau, toute mon eau va arriver là dans cette tranchée et va alimenter cette micro-terrasse. Et donc ça, ce système là, l'eau qui arrive direct dans le sol, c'est ce qu'on appelle une pédo-épuration. Donc épuration par le sol. Donc évidemment, quand on amène de l'eau dans le sol, il faut absolument qu'il n'y ait pas l'eau des toilettes, parce que c'est pathogène. Et il ne faut absolument pas utiliser des produits type eau de Javel, biocides, ou produits qui ne sont pas favorables à l'environnement. Donc moi, quand je fais ma vaisselle, ben, soit je la fais au savon classique, Marseille, ou ça peut m'arriver de la faire à la cendre, ou à l'eau. Chaude, ça suffit, sans produit. Et puis pour le coup, ben, c'est une eau qui est plutôt propre et enrichie en nutriments, qui va venir en plus alimenter. Et tu vois, c'est une petite tranchée qui va se boucher peut-être dans un an ou deux, mais que je peux facilement réouvrir. Et en général, moi ça me va, parce qu'il y a plein de petites tranchées qui sont en perpendiculaire du chemin. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand l'eau ruisselle, ben, y a des sédiments qui vont arriver, et c'est des particules fines. Je récupère ça quand je débouche mes tranchées, je récupère ces particules et c'est ce qui me fait mon terreau. Et j'ai pas besoin d'aller acheter du terreau, donc ça veut dire pas besoin d'acheter, pas de plastique, pas de transport en voiture, donc c'est déjà une économie. Et puis je me sers déjà d'espaces qui sont défrichés pour pas en défricher d'autres, pour maintenir le plus de sauvages autour de tout ça. Et ça, ça me parle beaucoup. Voilà, là il y a une ombrière que j'ai récupérée, donc j'ai fait pas mal de récupérations de bâches plastiques, d'ombrières. Et ici c'est ma douche d'été, donc c'est un bac de douche avec l'eau qui arrive en gravitaire, donc des cuves à eau dont on a parlé au début. Et puis voilà, on se douche là en plein milieu de la forêt l'été, avec une petite cuisine d'été aussi, bien à l'ombre des pins. Et puis, ben, et puis derrière nous on a un accès assez direct là. C'est le chemin qui nous amène directement dans la forêt pour aller faire des petites balades, aller chercher des champignons, voilà, aller se reconnecter un peu à tout ça. C'est pas que je sois déconnecté, mais en tout cas c'est chouette de pouvoir y aller, quoi.